en préparant ma venue, j'ai finalement regretté de ne pas avoir été placé en symétrie de François Hartog. Le devoir que vous m'avez demandé, hein, la Méditerranée dans la mondialisation, je vais l'assumer à ma manière. Mais je pense que parler de présentisme aurait été intéressant en symétrie de parler, il faut l'oublier tout de suite, d'icisme, c'est-à-dire de parler de l'ici et du rapport à l'espace que ça induit. Et de ce point de vue-là, je tiens à vous remercier parce que je suis très fier de faire équipe avec François Hartog parce que je vois beaucoup dans la structuration de la géographie, donc ça joue un rôle. Et simplement pour esquisser ce qui pourrait devenir, qui a fait un rapport à ce qu'on dit, c'est que la chronologie du présentisme que vient de faire François Hartog est exactement la chronologie du mot mondialisation que vous me demandez de traiter. C'est un mot qui apparaît dans les années 70 dans le vocabulaire journalistique, même si on peut trouver des occurrences de ce néologisme autrefois, et qui entre dans les dictionnaires en 1980. Et c'est à ce moment-là, qui est aussi d'ailleurs exactement la chronologie du mot postmodernité, le livre est 79, qu'on a un passage du temps à l'espace dans l'organisation de la pensée de nos sociétés. Pour moi, un des éléments les plus frappants, et ce n'est pas de l'anecdote, c'est le passage de l'expression sous-développement-développement à l'expression sud-nord. C'est là qu'on peut encore le préciser, c'est un rapport, le rapport Brand, c'est 1980 également, qu'on se met à dire nord-sud. Même si là aussi on peut trouver quelques images autrefois, mais ça n'a pas d'importance. Donc on spatialise ce qui me semble une des manifestations les plus claires du présentisme. Et on pourrait effectivement avoir de tout autre exemple, dans l'organisation du musée, enfin, on a tout à fait ce passage qui apparaît comme un décloisonnement, une transdisciplinarité d'ailleurs, et qui est effectivement une détemporalisation des dynamiques de la pensée du social. Alors, parler strictement de la Méditerranée, je l'ai ramené dans le titre que vous aviez vu dans la première diapo, à trois mots. Ces trois mots, comme Méditerranée était en premier, la majuscule était ambiguë. Est-ce que c'était la Méditerranée éponyme, le nom propre, ou est-ce que c'était la notion de Méditerranée? Ce qui suppose des énormes préoccupations, j'en sais rien, mais il me semble. Qui est une notion comparatiste, au fond, qui n'est plus peut-être tout à fait dans l'air du temps. Des identités territoriales fortes. Le monde avec ou sans majuscule, c'est-à-dire est-ce que c'est l'entité géographique particulière qui regroupe et structure géographiquement l'humanité actuellement, l'écoumène, ou est-ce que c'est le réel, humain, social, sur la Terre. Et puis le milieu, au sens ambigu, déjà encore une autre ambiguïté sur les sens du mot milieu, mais est-ce que c'est l'idée de centralité qui était au cœur d'enjeu du monde, je crois que est-ce que c'est le cœur d'un réseau ou est-ce que le monde n'est pas un réseau? La mondialisation contemporaine à la fois informationnelle et économique est une structure réticulaire. Dont le centre est, comme les yeux de partout, et nulle part, bien sûr. Même s'il y a des pôles. Donc, je vais essayer de traiter ces points d'une manière tout à fait scolaire en trois points. J'ai dit que mon métier était d'être enseignant. En disant qu'on est plutôt au midi d'un centre qu'au centre du midi. On a été à l'ouest d'un axe, quand on prend la Méditerranée avec une majuscule. Et que, bien sûr, et en ce sens-là, il y aura des diapos que beaucoup ont déjà vus, que j'ai utilisées ici même, mais sur le rôle de structurant dans nos éléments de pensée en sciences sociales, en particulier dans les temporalités historiques de la Méditerranée. Alors, une vieille image que j'ai réduite à sa plus simple expression, qui date de 1985, Kenichi Obae. et qui est une expression de formation de cadre d'entreprise. Hein. C'est pas du tout, mais bien sûr, l'université et entre autres la géographie s'en est beaucoup inspirée, entre autres dans un contexte scolaire. Hier, dans le train, puisqu'on avait Internet, j'ai trouvé une page d'un manuel scolaire qui organisait ce genre de choses. On forme beaucoup, toujours, hein, je peux vous le dire, les jeunes esprits à la société mondiale dans ce type de pratique. Ne photographiez pas l'écran, vous pourrez tout simplement prendre le PowerPoint, c'est encore plus simple. Hein. Voilà, je l'avais schématisé ainsi, puisque vous avez cité Géo-histoire de la mondialisation, donc il y a 15 ans. Ça a été beaucoup copié. Là, justement, c'est de nouveau dans un manuel scolaire que je ne connaissais pas, où ils ont repris le petit croquis que j'avais fait, mon métier étant de faire des croquis cartographiques. Alors, si je schématise, vous voyez qu'il y a un bleu central, qui est la Méditerranée, sachant que dans l'image précédente, elle a été reproduite 3 fois, c'était donc une des 3 Méditerranées, puisque j'avais fait un schéma de lecture du monde, disant pas que le monde était ainsi, mais qu'on pouvait en faire une intelligibilité simple de cette manière, en disant il y a des polarisations centrales, les pôles de la triade, Amérique du Nord, Europe occidentale et Asie orientale, et qu'on a toujours au sud de ces 3 ensembles denses, concentration de capitaux, de technologies, de formation, de métiers de haut niveau, on a des aires climatiquement plus appréciables, des sunbelts, avec des développements effectivement d'éléments de ce centre, mais aussi un élément touristique et important, donc les Caraïbes ou l'Asie du Sud-Est dans les 2 cas. Voilà, une Méditerranée qui me semble très datée comme type de problématique, mais qui effectivement amène à ce type de comparatisme, sachant qu'il y a de la modélisation élémentaire derrière, ce qui n'est peut-être pas dans l'air du temps. Deuxième élément, la Méditerranée, c'est une vieille histoire de mondialisation dans un temps très très long, puisque quand vous me disiez dans le temps présent, c'est à cela que vous pensez. Alors j'ai mis le pictogramme de mon petit atlas, c'est pas pour faire de la pub, il marche très bien, pas de problème, mais simplement par honnêteté, je vous signale que si vous avez les codes de l'atlas, vous pouvez tout trouver ça gratuitement en PDF sur le site de Revue l'Histoire. Donc, ce sont les nouvelles routes de la soie. C'est en ce sens-là, je pense que l'axe méditerranéen étant au fond le terminus des nouvelles routes de la soie, retrouvant de vieilles histoires. Puisque, par exemple, si je reprends ici, j'avais tenu à ce que la troisième partie de l'Atlas commence par l'axe de l'Ancien Monde, c'est au tout début de notre ère, entre les Romains et les Han, où on a une circulation qu'on a fini par appeler au XIXe siècle, c'est un Allemand qui l'a fait, route de la soie. Vous avez là quelque chose où circulent probablement dès le paléolithique, le roi Rouen le signalait déjà pour pas mal de diffusion, des types d'innovation, et en particulier le fait que ici vous aviez dans le temps très long, sur des millénaires, et c'est toujours vrai aujourd'hui, entre 70% et 75% de la démographie mondiale de l'humanité qui est présente ici. Alors, ce n'est plus tout à fait le cas dans les dynamiques actuelles, entre autres à cause de la dynamique subsaharienne, mais vous avez là quand même quelque chose qui reste fondamental et que la géopolitique chinoise tente de retrouver. Donc, c'était, j'imagine, le message que vous vouliez voir. Alors, rappel néanmoins que placer la Méditerranée au centre de cet axe, c'est quand même curieux, c'est pour ça qu'il est l'Occident de cet axe, et que s'il y a un centre, c'est l'océan Indien. Historiquement, l'océan Indien, c'est le lieu des échanges principaux, ne serait-ce que, petite minute de déterminisme, les moussons permettent de faire des navigations est-ouest de manière très régulière et très pratique, et c'est là qu'on a inventé la navigation auturière, bien avant la Méditerranée, plus petite. Les mers de Chine et la Méditerranée apparaissent comme tout simplement les prolongements de cet axe essentiel pour la partie maritime qui est l'essentiel, et avec une variante, avec une version évidemment terrestre qu'on appelait les routes de la soie. puisque je parle de la Méditerranée, j'ai salué un témoin qui est Polo. Il y a eu plein de Marco Polo d'ethnies différentes, de populations d'Asie centrale en particulier, naviguant ou voyageant en caravane entre la Méditerranée et la Chine, voire le Japon. Évidemment, Polo, qui est parti par les routes terrestres et revenu par les routes maritimes, est un parfait symbole de cette mondialisation, dont en ces temps de coronavirus, on rappellera que la peste noire, quelques décennies plus tard, a été un des sous-produits tout à fait importants. Alors, je vais rendre hommage à Philippe Beaujard, hein, qui avait été le Brodel de l'océan Indien, si je puis caractériser. En tout cas, c'était par passion pour Brodel qu'il a tenté de faire le même. Et j'en ai tiré une de ces cartes très complexes, mais où vous avez cette position de la Méditerranée dans ces structures d'échange qu'on ne peut pas oublier, négliger, avec beaucoup de passages d'ouest en est. La technologie de l'acier qui est née en Inde s'est perfectionnée en Méditerranée, à Damas puis à Tolède, mais surtout en Europe, est revenue ensuite pour faire des sabres de samouraï au XVIe siècle. On a typiquement ce type d'échange, mais la boussole en serait, même si son invention est complète d'objet de débat, quelque chose qui a circulé là d'est en ouest. Par contre, donc, on est tout à fait dans des types de divisions auxquelles il faut constamment penser. Donc, encore au XVe siècle, nous sommes dans cette partie d'Occident de l'axe de l'Ancien Monde, et c'est là où les termes d'Occident et d'Orient, dont la géographie est très intéressante, mais n'ont sens hein, que par rapport à ce type de circulation. Simplement, dans l'Atlas, j'ai tenu à faire une carte que la revue d'Histoire n'avait pas faite, qui était un petit cas de quelque chose qui appelait à aller plus loin et qui allait centraliser l'Occident, c'est-à-dire l'appel des épices, et de l'épice ici principale, qui était le sucre, qui avait le statut d'épice hein, jusqu'au XVIe siècle, qui se diffuse à travers la Méditerranée, sachant que là, pour moi, c'est la naissance du Nord-Sud. C'est-à-dire, c'est de fait en Méditerranée, c'est-à-dire qu'on peut produire du sucre au Sud, mais pas au Nord. À partir de là, les Européens vont chercher des terres à sucre, et à épices plus généralement, et ils en trouveront de nouvelles. J'ai fait un bouquin sur thé, café, chocolat. Vous avez d'abord les îles de l'Atlantique, la Macaronésie, comme on dit parfois, Madère, les Açores, les Canaries, qui vont servir de premières îles à sucre. Et évidemment, peu de temps après, en allant un tout petit peu plus loin, Colomb, évidemment, faisant le saut, va faire passer l'Occident de sa position de bout du monde à une position centrale, que par exemple une carte du 19e siècle, oh, moche, je ne vais pas passer, c'est Vidal la Blache, bien sûr, assume sa centralité. De là. Alors ça me permet une transition vers mon troisième point, qui est la mise en scène de la Méditerranée, qui est justement le fait, alors là je cite Brodel, avec Jalorge, puisque tout à l'heure on parlait de Berthe. On a une carte qui n'est pas exactement de Bertin, mais toute la cartographie, on va en voir une ou deux, de la Méditerranée de Brodel est faite par le grand cartographe Bertin. Vous avez là typiquement une mise en scène de la centralité méditerranéenne. On est au milieu. Alors, attention, tout à l'heure j'ai revendiqué d'être nominaliste. La cartographie vous rend nominaliste de toute façon parce que, justement, le lecteur en est réaliste. C'est-à-dire que très souvent, la carte passe pour la photo du monde et que le cartographe sait très bien qu'il a fait une multitude de choix, la projection, le cadrage, et le fait qu'un planisphère ait des bords, donc crée des bouts du monde, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la mise en scène. Donc là, je vous rappelle que ce fut, on l'a vu sur la carte fin 19e, vrai que l'Europe, plus que la Méditerranée, fut alors le centre du monde, ce dont témoigne aujourd'hui le méridien d'origine. Je l'ai fait assez épais pour qu'il soit à la fois de Londres et de Paris, donc je ne rentrerai pas dans les choix de 1884. Vous avez là quelque chose dont on n'est pas tout à fait sorti. non seulement en Europe, mais ailleurs aussi. Hein, je peux vous dire, je connais bien les manuels scolaires latino-américains ou même d'Australie, Nouvelle-Zélande, vous avez des centralités qui restent tout à fait traditionnelles pour les Européens. Donc, il ne faut pas oublier ce genre de choses, et pour vous rappeler in fine que, justement, en passant par Brodel, cette carte est très célèbre hein, chez les cartographes, c'est une carte de Bertin, pour illustrer l'idée, vous voyez tout à fait les mises en scène et les manipulations, la phrase de Brodel qu'elle illustre, c'est « la masse africaine, et en particulier le Sahara, pèse sur la Méditerranée ». Alors évidemment, en orientant, terme amusant, la carte au sud, l'Afrique effectivement pèse de tout son poids vertical sur le bassin méditerranéen. Donc on est dans notre logique. Vous avez le fait que la Méditerranée a été le lieu ou l'espace, mais plutôt le lieu ou le territoire où s'inventa la cartographie européenne moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle, qu'on ne devrait pas appeler, mais je ne vais pas rentrer dans cette querelle et je vais utiliser le mot dans son sens le plus courant, le portulan. C'est-à-dire une carte fondée sur la boussole, une carte technique qui permettait de se déplacer et qui dépasse, va finir par venir la technique cartographique de base à partir du XVIe siècle. Vous avez ici la portulan qu'on considère comme la plus ancienne, qui est le plus ancien, pardon, qui est à la BNF, qu'on appelle la carte Pisane. Alors vous ne voyez pas grand chose, j'imagine, c'est la Méditerranée qui représente. On peut même être plus précis, la technique portulane, c'est-à-dire autour de la rose des vents, l'orientation à partir de la boussole pour avoir des axes qui permettent d'aller d'un port à l'autre, hein, d'où le nom, c'est quelque chose qui est né dans la mer Égée. Alors, là aussi, vous allez vous crever les yeux pour cette carte du XVIe siècle, mais s'il y en a des plus anciennes, repérez Candy, ou si vous préférez la Crète, qui est tout à fait à droite de notre image, c'est-à-dire que la carte est littéralement orientée ici, et vous pouvez reconnaître la mer Égée à l'intérieur de ces cartes anciennes. C'est là, non seulement que sont nés les mots Europe et Asie, ça c'est très ancien, mais que sont nées justement les techniques cartographiques qui vont dépasser toutes les techniques préexistantes. Alors je ne pouvais pas, mais ça c'est une pure gourmandise, citer la classe catalane. Mais vous avez ici un atlas portulan qui est très joli, qui pourrait tout à fait servir d'image à votre institut. Hein. Voilà, ça c'est l'atlas catalan, dont la partie ouest est un portulan, c'est-à-dire qu'on a une maîtrise technique, proportionnelle, etc., et dont la partie est, que je ne vous ai pas mise, puisque c'est l'axe de l'ancien monde, l'atlas catalan, qui est la plus belle carte de toute l'histoire, et qui est à la BNF. Vous avez quelque chose qui est au contraire une carte mentale, une carte représentée. Alors, ça doit quand même, je vous le rappelle, là on retombe sur des images que j'ai montrées quelques fois, qui est de rendre modeste. Il y a un autre grand domaine de la cartographie technique, qui est le monde chinois, qui a une histoire cartographique tout aussi ancienne. Il y a un Ératosthène chinois. Il y a d'autres sociétés cartographiques, je n'ai pas le temps de rendre hommage aux Polynésiens, les cartes sont fantastiques. Mais vous avez là une représentation du monde connu, qui est exactement l'équivalent de l'Atlas catalan, ou de la Framauro, enfin des grandes représentations du monde du XVe siècle européen, occidental. Évidemment, vous pouvez voir, comme c'est une carte coréenne, la Corée est énorme. La Chine est importante et facilement identifiable parce qu'il y a une cartographie chinoise qui est technique, qui est très mercator au point de vue de sa technique, parce qu'il s'agit de contrôler le territoire. Vous avez la pointe sud, c'est l'Inde. Vous voyez l'Afrique avec ses grands lacs, ils sont énormes, ils sont complètement à l'ouest, parce que là la carte est effectivement septentrionnée. Vous pouvez reconnaître la péninsule arabique, je ne vous ai pas détaillé tout ça, et surtout, ici, vous ne voyez pas en bleu, parce qu'elle est marron clair, vous avez la Méditerranée. Alors, je suis désolé, sur cette carte, il n'y a pas Aix-en-Provence, mais il y a Paris, qui porte un tout autre nom, mais on sait que c'est le nom qu'ils donnaient à Paris dans les récits chinois. Il y a Alexandrie, avec une petite pagode qui représente le phare, dans les Chinois, avec l'écho. Mais vous voyez que vous avez un grand ensemble occidental qui regroupe ce qu'on appelle, nous, Afrique, Europe et Proche-Orient, Moyen-Orient, et Asie centrale, et qu'inversement, il y a deux autres parties du monde qui sont le monde chinois et l'Inde. Voilà, c'est en gros, c'est une autre vision du monde qui nous rend modestes. Nous sommes tout au bout, dans un petit coin. Donc, puisqu'on m'a demandé de parler de centralité, je voulais un peu terminer sur quelque chose. Néanmoins, je vous rappelle, là aussi, il y en a qui m'ont subi ici même, et que c'est en Méditerranée que les quatre vieilles périodes historiques ont été découpées. Et que ça n'a guère sens que là, précisément, même si on peut faire des projections sur le Moyen-Âge japonais, je ne sais pas ce qu'on inversement serait le Moyen-Âge maya. Donc, la naissance de l'écriture qui va inaugurer notre antiquité, donc je vous la situe. La chute de l'Empire romain pour prendre la fin officielle de l'Antiquité occidentale, et puis bien sûr la fin du Moyen-Âge avec la chute de Constantinople. Ou si vous préférez le départ de Christophe Colomb, là on sort justement de la Méditerranée. Donc vous avez quelque chose de subjectivement méditerranéen dans notre structuration traditionnelle et qui reste disciplinaire, ou sous-disciplinaire, avec beaucoup de brutalité je trouve, du découpage de l'histoire. Dernier petit clin d'œil cartographique, j'ai pris, il me fallait une map monde médiévale, mais j'en ai pris une qui est très jolie je trouve. Je vous rappelle que tout en haut, à l'Orient, la carte est, c'est là que vient le mot orienter, vous avez le début de l'histoire, c'est-à-dire le paradis, là au-delà du lever du soleil, et que le milieu de l'histoire, c'est la naissance, enfin c'est la vie du Christ, il dit la naissance, c'est parce que c'est aussi ainsi que s'est construit le temps, avant notre ère, après notre ère, je l'exprime de manière laïque, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, qui structure en même temps l'espace et le temps. Et là, la Méditerranée, qui apparaît au bout de l'histoire, on a d'ailleurs un vaisseau qui apparaît, notre Méditerranée, qui coupe l'Europe de l'Afrique, c'est là qu'on a structuré ce découpage, représente, depuis notre ère, même si c'est aussi le lieu de l'Antiquité, c'est le lieu du temps moderne, vu dans quelque chose, je fais un anachronisme violent en utilisant l'adjectif moderne sur une map médiévale, en toute conscience. Voilà. Rappelons-nous enfin qu'un découpage Antiquité-Moyen-Âge différent, je fais de l'historiographie particulièrement archéologique en allant chercher Pyrène, c'est le découpage du nord et du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire le moment où l'Europe s'autonomise, c'est ça le Moyen-Âge, par rapport au monde méditerranéen, et le moment que Mahomet et Charlemagne, pour reprendre le titre phare de Pyrène, va représenter à la fois un découpage de l'espace et du temps, c'est-à-dire d'Europe et d'Afrique-Asie d'un côté, et de Moyen-Âge et d'Antiquité de l'autre, c'est la même chose, c'est le même découpage. Voilà, en terminant pour Bertin, c'est dans la Méditerranée. La première image, avant même le texte de la Méditerranée de Brodel, j'aime beaucoup cet écorché d'une Méditerranée sans eau. Et enfin, il y a quand même implicitement le niveau zéro qui donne cette carte en dégradé de gris du texte brodélien. Et je vous remercie.
C'est nous.